Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Moundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 16 juin 2014. Bienvenue au Grand Dialogue du studio Tamani. Le sujet du jour porte sur l'utilisation abusive des biens de l'État. Voici trois points qui seront développés dans ce débat. Le coût des abus sur les finances publiques, les racines des abus de biens publics et la question « Faut-il une réforme aujourd'hui pour la gestion des biens publics ?» Nos invités, professeur Abdoulaye Niang, économiste-chercheur, et Chekna Bounajim Sissé, économiste également. Merci messieurs pour votre disponibilité. Au micro, Famoussa Sidibé, à la mise en onde, Salim Djouara. Une centaine de fonctionnaires se sont fait confisquer leur voiture le week-end dernier à Bamako. La police et la gendarmerie ont organisé une vaste opération pour traquer les véhicules administratifs. Le détournement du parc roulant de l'État fait perdre énormément de ressources au denier public. Comme la plupart des pays du continent, le Mali a décidé de réagir. Le dossier très étoffé pointe du doigt le comportement de certains fonctionnaires qui utilisent les voitures de fonction à des usages privés, ce qui est interdit. Ces véhicules sont en principe réservés aux déplacements d'intérêt général et strictement administratifs. Ils ne peuvent être attribués à l'usage exclusif et permanent d'agents déterminés. Alors, pourquoi c'est maintenant que les consciences se réveillent pour voir clair dans la gestion des biens publics de l'État, Chekna Bounajim Sissé?
Merci beaucoup pour l'invitation qui m'est faite à débattre d'un sujet aussi important qui concerne la vie de la nation, notamment l'usage que les agents font des biens de l'État. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est de savoir pourquoi ce réveil tardif. En réalité, pour ceux qui ont un peu la mémoire des choses, de l'historique de ce pays-là, ce n'est pas la première fois que de telles interpellations, de telles opérations spectaculaires puissent se faire. Je me rappelle, bien que j'étais un peu plus jeune, que de tels mouvements s'étaient produits, mais ça reste, de mon point de vue, spectaculaire et des opérations de coup de poing. Je pense que dans le débat, on va rentrer un peu en profondeur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut rappeler que ça ne doit pas surprendre, parce que le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a dit dans son adresse, en septembre 2013, lors du 53e anniversaire de l'indépendance de ce pays, a dit, je le cite, que les véhicules de l'État servant à transporter des intrants dans des vergers personnels, c'est terminé. Ils ne devront plus servir que les seuls besoins de leur objet. Donc, venant du premier responsable du pays et du premier magistrat du pays, je pense que tout le monde était averti pour prendre les dispositions nécessaires pour que une telle opération, normalement, aurait pu être un insuccès si l'appel avait été entendu.
Alors, professeur Abdoulaye Niang, je rappelle que la mesure avait entraîné également la mise en fourrière de véhicules de l'ORTM, des véhicules destinés au reportage. Est-ce qu'il y a eu un peu de zèle dans cette histoire?
Oui, vous savez, je crois que si c'est à utiliser un mot qui a toute sa valeur, c'est des opérations coup de poing. Et quand c'est des opérations coup de poing, ce n'est pas planifié. Donc, il n'y a pas de discrimination. Quelqu'un peut dire même qu'il a un mort dans la voiture et on dit tu arrêtes. Bon, je pense que le commissaire Sangaré, il a reçu des instructions militaires et il les a appliquées. Mais, au fond, ça ne devait pas être le cas. L'ORTM, la santé, on aurait dû donner une liste de véhicules. Et on pourrait dire que ces véhicules ne doivent pas être arrêtés. Mais si ça transporte, par exemple, de l'engrais, si ça transporte des aliments bétail pour aller à la ferme, on les arrête, oui. Mais il fallait faire cette discrimination. S'ils étaient en mission, on aurait dû arrêter. Pourquoi on dit que quand c'est une opération coup de poing de cette nature-là, ce n'est pas planifié? En réalité, le plan de sortie durable de la crise sociale globale et sécuritaire que nous avons proposé à IBK 48 heures après qu'il a été désigné, contenait un programme de réinsertion sociale, un programme d'intégration économique. Parce qu'en fait, il faut qu'on nous intègre économiquement. Comment vous pouvez comprendre comment un fonctionnaire qui, après 40 ans, n'a même pas 300 000 francs de salaire, puisse se payer un véhicule? alors qu'il a fait son doctorat, il a travaillé pendant peut-être 30 ans, 20 ans. Ce n'est pas normal, c'est injuste. L'État n'est pas en train de payer les fonctionnaires comme il faut. Il est en train de les exploiter. Mais ces gens, comme ils sont des personnes rationnelles et qui n'ont pas d'emploi ailleurs, ils ont transformé leur position en position de rente. Les véhicules rentrent dans ça, l'essence rentre dans ça, tous les avantages qu'il y a, ils recrutent leurs enfants, comme l'armée et partout. Les conséquences sont là. Donc Ibeka, en disant que ça va être, c'est fini, fin. Il n'a pas pu appliquer immédiatement. Donc ça ne devait pas surprendre les gens. Mais je pense que c'est une mesure pour le moment injuste. Il faut qu'on s'assoie et qu'on ait un programme bien développé, bien élaboré. Et nous pouvons faciliter cette élaboration pour que les gens, on leur donne un salaire, par exemple, de 2 millions, de 3 millions. Et de dire, par exemple, même les ministres, de ne plus avoir accès à l'essence comme ils le font, ne plus avoir accès au véhicule comme il le faut. Donc ils auront un véhicule, on leur donne un prêt, comme au Rwanda. Et leur ménage, leur famille va utiliser ça, mais c'est leur voiture privée. Et on leur donne une subvention, peut-être 30%, 40% de subvention, et leur donner un prêt pour pouvoir le payer. Mais ils ont 2 millions, 3 millions de salaire en tant que fonctionnaire, s'ils le méritent, et non pas 100 000 francs, 200 000 francs.
Alors, les ministres ont au moins 2 véhicules de service, les directeurs généraux également en possèdent autant, en plus des logements de service pour certains cadres. L'État malien peut-il continuer à supporter ces coûts, Cheikh Nabou Najim Cissé?
En fait, l'État malien peut supporter ces coûts. Moi, je ne m'inscris pas dans le caractère spectaculaire. Moi, je suis un économiste, je m'inscris dans l'efficacité. Si les véhicules ou si les biens de l'État qui sont utilisés par ses serviteurs servent à faire progresser positivement l'État, c'est tout bénéfice pour l'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas couper pour le plaisir de couper. Il faut que la démarche publique, les politiques publiques puissent répondre à une donnée essentielle en économie, c'est l'efficacité. Quel est l'objectif poursuivi? Quels sont les moyens qui sont déployés pour atteindre cet objectif-là? Voilà, ça c'est des choses concrètes. Et je ne voudrais pas que dans notre débat qu'on se focalise, on l'a constaté, hein, c'est une opération coup de poing qui est diversement appréciée par la population et diversement appréciée aussi par les spécialistes des questions financières et économiques. Je voudrais qu'on pose le débat de façon plus large, c'est-à-dire l'utilisation des ressources de l'État. Et ça là, ça pose deux problèmes majeurs, le problème de la corruption et le problème de la mauvaise gouvernance. Je pense que ce sont ces deux éléments. Et là-dessus, si vous permettez, j'ai deux éléments de réflexion à apporter à vos auditeurs. Le premier élément, c'est que le vérificateur général, dans son récent rapport, notamment dans son allocution en novembre 2013, en présentant son rapport au président de la République, a dit quelque chose qui m'a fortement interpellé. Il a dit que dans une direction des finances et du matériel, alors qu'on estimait qu'avec cette réorganisation, on allait mettre fin un peu à la gabegie, leurs vérifications, leurs investigations ont permis de déceler que sur un seul véhicule, il y a eu, en une seule journée, il y a eu 150 pièces qui ont été changées. C'est le premier élément. Je vais vous donner un autre élément qui va aussi vous faire un peu intriguer, sinon, qui est désopilant, pour ne pas dire. C'est qu'il y a une étude de la Banque mondiale qui a fait remarquer que si on achetait réellement le matériel de bureau qu'on avait effectivement décaissé, dont les montants étaient décaissés pendant les 10 dernières années, il n'y aurait pas une place pour faire asseoir quelqu'un. C'est un rapport de la Banque mondiale. Voilà deux éléments de réflexion qui nous prouvent que nous sommes dans une situation un peu difficile. Je vais proroger, avec la permission de mon aîné et doyen, le professeur, pour dire que lorsque je suis rentré récemment au pays, après avoir visité un pays qui n'est pas très loin, qui est âgé de pierre, et qui quand même présente moins d'atouts de potentialité que nous, qui est aujourd'hui à une lumière de nous, j'ai échangé avec ce aîné et je me suis dit, quel est le volume de la corruption au Mali? Il n'y a aucune étude sérieuse qui puisse délimiter la Banque mondiale, etc., la société civile ici. Alors je vais vous dire qu'il m'a surpris parce qu'il m'a dit que la crise de 2012 a eu un avantage, c'est que ça a permis d'évaluer réellement le montant de la corruption au Mali. Je vais vous expliquer sa démonstration. Il a dit que le Mali est le seul pays au monde qui a été frappé par une crise d'une violence inouïe. au sud comme au nord. On n'en revient pas là-dessus, une crise militaro-civile extrêmement violente. Mais c'est le seul pays au monde donc là, où la communauté internationale a décidé de couper le robinet et la communauté internationale agit pour 80% des ressources que le Mali utilise pour son besoin. Et donc le Mali n'a fonctionné qu'avec 20%. Avec 20%, puisque nous qui sommes au système bancaire, dans le système bancaire, nous sommes l'antichambre de l'économie, donc nous savons ce qui s'y passe. Avec 20% des ressources, le Mali a pu effectuer tous ses besoins. Vous avez vu, les salaires ont pu être payés, vous avez vu que les marchés ont pu être approvisionnés, il n'y a pas eu de rupture dans les approvisionnements des choses. Donc, l'économie a pu fonctionner. Mais oui. Ça veut dire quoi? Ça vous interpelle quand même quelque chose de précis. Et les 80%, ça représente quoi? Donc, ça veut dire que...
Les 80% sont destinés à ailleurs. Alors, voilà. professeur Niang, peut-on estimer aujourd'hui le coût de ce que l'on défend aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation de ces biens-là? Est-ce qu'on peut estimer le coût dans les finances publiques?
Bon, vous savez, la richesse publique, c'est pour financer des mesures et des programmes de stimulation du développement économique et social. Et pour assurer la sécurité. Donc, vous pouvez comprendre que l'armée malienne aujourd'hui a moins d'équipement qu'au moment où notre père Modibo Keïta nous conduisait la destinée de ce pays. Ça, c'est un indicateur formidable. C'est à cause de la corruption que les entreprises privées maliennes, que les communautés de localité des 9 mines d'or du Mali sont dépossédés de leur richesse, de leur capacité de retenir la richesse de la nation. Parce que simplement, ils ont transformé les fonctionnaires ou les responsables politico-administratifs. Ils ont transformé leur position en position de rente, donc en faisant perdre la grande majorité pour leur intérêt personnel. Je peux continuer. Orange, c'est la même chose. On a fait perdre les Maliens, les entreprises privées maliennes qui sont capables de créer plus d'emplois avec des effets multiplicateurs pour permettre aux Sénégalais non seulement de contrôler l'économie dérivant de la communication, mais surtout même de contrôler notre sécurité parce que tout ce qu'on dit ici est écouté ailleurs. Donc le coût, si vous voulez, en termes monétaires, c'est difficile de dire c'est tant de milliards, mais en termes d'opportunités perdu pour la nation, c'est extraordinaire. Mais le plus important dans tout ça, c'est leur impact social. C'est-à-dire aujourd'hui, l'enfant qui naît dit qu'il faut que je sois gestionnaire. Et si je suis gestionnaire, je vole la richesse publique. Donc c'est ce qu'ils ont inculqué, même depuis le ventre, l'enfant dit que je sors rapidement pour aller prendre ma part. C'est grave. Donc, il nous faut un changement radical. Mais encore une fois de plus, ne faites pas travailler quelqu'un et ne pas lui donner le salaire qu'il faut pour qu'il puisse vivre dignement.
Alors, nous allons revenir sur cette question. Les raisons qui ont poussé certains fonctionnaires à abuser des biens de l'État, nous les verrons tout à l'heure, juste après quelques secondes de pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Damana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Damana, 91.4 MHz, Alpharouk de Tombouctou, 98 MHz, Issa Ber de Niafunké, 96.3 MHz.
Vous nous êtes fidèles, merci à vous. Les programmes du Studio Tamani se poursuivent et vous écoutez Le Grand Dialogue qui parle aujourd'hui de l'utilisation abusive des biens de l'État. Nous sommes à la deuxième partie de cette émission, une deuxième partie consacrée aux racines des abus des biens publics. Nos invités, professeur Abdoulaye Niang, économiste, chercheur, et Chekna Bounajim Sissé également, chercheur. Alors, les causes, quelles sont les causes de, ces abus, Bounajim Sissé, Chekna Bounajim Sissé?
Merci, monsieur Sidibé. Et les causes sont de plusieurs ordres. Hein. Le professeur Niang vient de le dire, hein, c'est-à-dire que quand vous aviez des fonctionnaires qui ont des salaires assez érodés, qui ne leur permettent pas de subvenir, ou de, en tout cas de choses. Encore que cela n'explique pas l'usage abusif qui peut être fait des biens de l'État. Le deuxième élément quand même qui est important et qui me paraît essentiel comme étant la cause de tous ces maux, c'est l'incivisme. C'est l'insuffisance du patriotisme. Je pense que quand on aime son pays, quand on a l'amour pour son pays, on doit élever le bien public à un haut degré d'estime.
Je voudrais juste qu'on revienne un peu en arrière. Quand vous dites que c'est par manque de civisme, on est un peu perdu. La nouvelle génération est un peu perdue car tous ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, les cadres du Mali, ont bénéficié quand même d'un certain encadrement civique qui leur permet aujourd'hui de bien gérer. Je parle notamment, le service national des jeunes a été supprimé, mais il y a des gens qui ont bénéficié de cette formation et qui sont aujourd'hui aux affaires. Et pourtant, ça ne va pas.
Parce que, vous saviez, ça ne s'apprend pas au niveau de ces structures-là. Encore que j'ai entendu qu'ils vont réactiver le service national des jeunes, c'est une bonne chose. Mais c'est au niveau de la cellule familiale, il a dit, le professeur. C'est tout, c'est là où ça se passe. Quand vous avez aujourd'hui l'autorité parentale qui est complètement dévoyée et qu'elle n'est plus de la responsabilité de la personne qui est dotée juridiquement pour le faire, notamment le père de famille. Quand vous aviez une mère, une fille ou bien un garçon qui joue le rôle de chef de famille parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse, c'est évident que vous devez vous attendre à ce que... quand vous aviez un élément que je vous dis qui est tout à fait banal qu'on constate. Vous êtes un responsable de ce pays, vous recevez des opérateurs économiques chez vous et vos enfants constate que l'opérateur, il fait sortir une enveloppe, il donne.
Pour soudoyer le chef de famille.
Devant vos enfants. Et pour vous, ils sont très jeunes, la fille, et vous prenez cette enveloppe, vous en prenez, vous dites, bon, allez-y acheter quelque chose pour vous, allez-y faire ceci pour vous. Comment voulez-vous que les enfants qui ont été éduqués dans un tel environnement, qu'ils puissent un jour se dire qu'il y a d'autres alternatives de gagner honnêtement et dignement? Mais en vérité, M. Sidibé, le bien public n'a pas de serviteur. Ou à peu de serviteurs pour être juste. Et quand le bien public n'a pas de serviteur, quand le bien public, celui qui s'en soucie, est considéré comme quelqu'un qui est un arriviste, quelqu'un qui est aigri,
ou maudit,
mais voilà, ce sont des pesanteurs. Mais vous allez trouver qu'il y a une unanimité, tout le monde s'accorde à dire que le pays plonge dans une corruption généralisée et que c'est le véritable fléau. Donc, la clé, c'est vraiment l'incivisme.
Alors, professeur, est-ce que vous êtes d'avis avec Bounajim Sissé quand il dit que c'est finalement le tissu social qui est brisé aujourd'hui et que c'est l'incivisme qui est à la base de tout, quand on sait que les cadres du Mali, les cadres actuels ont bénéficié quand même d'un bon encadrement? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit.
Bon, ma génération recevait beaucoup d'éducation. D'abord, on partait à l'école coranique, mais on partait même à l'école de Bilakoro. Entre Bilakoro, on se corrige et on respecte la hiérarchie. Quand je fais quelque chose dans la rue, quiconque qui passe, qui est plus âgé que moi, peut me tabasser. Et je n'ai pas le droit de venir avec...
les larmes aux yeux.
J'ai fait tout pour les enlever parce que si je viens, on me tape dessus parce que j'ai fait quelque chose probablement qui n'était pas... dans la norme sociale. Nos mamans respectaient leur ménage. Nos sœurs respectaient la tradition d'être demain en virginité devant leur mari. Mais graduellement, avec la globalisation qui a pénétré nos familles, nous avons perdu ces valeurs-là. Donc, il a parfaitement raison. C'est la racine de tout. Aujourd'hui, tu envoies ta maman à la Mecque avec de l'argent volé. Et on dit, voilà, Douaoudin. Donc, il a pu envoyer sa maman à la Mecque. Là où il est maintenant, là, il y a du jus là-dedans. Là. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, on t'encourage à aller voler. Tandis que les Saracolais, on les encourage à aller à la migration. Parce que quelqu'un qui est parti a dû amener de l'argent pour que leur village ait une mosquée. De l'autre côté, on encourage plutôt les voleurs à voler. Donc, notre génération est responsable de ce qui s'est passé. Mais la jeunesse actuelle, là, elle est née dans la déperdition. Elle grandit dans la déperdiction. Il faut qu'on l'arrête. Il faut, cette fois-ci, un coup de frein pour ceux qui sont responsables. Ils viennent de parler de 150 pièces sur une voiture. Mais est-ce que cette personne-là a été arrêtée et fusillée? S'il a été fusillé, parce qu'il y a des lois qui existent pour ça. Non, il y a des lois. Si on fait le calcul, on trouverait que la loi, pendant Moussa Traoré, là, de l'enrichissement, il y a un montant de 10 millions, c'était 10 millions. Mm-hmm. C'est sûr que c'est plus de 10 millions. On a vu dans ce rapport-là que les véhicules sont peut-être achetés à 30 millions en moyenne et quelques 2 ans, 3 ans, ils sont reformés et vendus à 300 000 francs. Et on les laisse. Parce que si tu les arrêtes, quand ton temps arrivera, quelqu'un d'autre va t'arrêter. Donc il faut qu'à un moment donné, la société civile est responsable avec les médias, qu'on se lève et qu'on arrête. Vous prenez le régime actuel qui a déclaré la 2014 pour la lutte contre la corruption. Mais ce régime-là est au centre de la corruption. Il est acteur. Parce qu'on a placé les gens de manière qu'ils ont des positions de rente. S'ils ont des positions de rente, l'argent coule. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ici, vous estimez que dans ce régime, il y a du favoritisme?
Oui, mais les postes qui sont occupés de la manière dont c'est occupé, c'est évident que si vous êtes un analyste, je parle d'analyste, parce que les analystes, ils sont vraiment, ils ne portent pas de...
Pragmatique. Donc, quel poste, par exemple?
Bon, mais si vous me faites parler, je vais parler. Et je n'ai pas de problème pour ça. Si vous regardez, il y a une famille qui, depuis des grands travaux, passe par des ministères.
Laquelle?
Où il y a des investissements, où il y a les grands travaux routiers et tout. C'est eux qui contrôlent tout ce circuit-là.
Quelle famille?
Et la famille Niang Abdoulaye.
Alors, Bounajim, Cheikh Bounajim Cissé, on parlait tout à l'heure de la corruption. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que, au point où on est aujourd'hui, il faut craindre pour l'avenir? La jeune génération n'est pas encore totalement aux affaires. La vieille génération a de la peine à passer le relais. Et pourtant, cette vieille génération est décriée. Est-ce qu'il faut craindre pour l'avenir des jeunes aujourd'hui?
Et craindre, je pense que le mot est faible. Parce que si vous vous référez... Est-ce que vous suivez l'actualité? Il y a 2500 migrants du Sahel qui sont en détresse quotidienne sur la Méditerranée. Je disais sur un des médias sur Africa Bleu toujours. Est-ce que vous savez qu'ils ne partent pas là-bas pour voler, ils ne partent pas là-bas pour mendier, ils partent là-bas pour travailler. Et si vous prenez l'Espagne, ils vont travailler dans les champs agricoles. Et nous avons ici l'office du Niger. Depuis 1932, l'ingénieur français dit que ça peut être le grain de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous imaginez que ces gens, ce qu'ils font pour aller en Europe, pour travailler dans ces champs, ils laissent leur soupir dans les océans, dans les cuvettes de sable. Alors, mais ça interpelle. Mais si vous permettez, le professeur a dit quelque chose, une interpellation historique. Je veux juste le compléter par quelque chose qui peut paraître très important pour vos auditeurs. Il y a M. Hiro Amadi qui avait fait un émouvant article en 1978 et qui a été publié par, tout le monde le connaît, l'écrivain Mongo Betty, la revue Peuple Noir et Peuple Africain. Vous permettez, je vais lire juste pour vos auditeurs.
Alors,
un extrait. Il disait ceci en 1978. Il disait que des responsabilités importantes sont confiées à des militants de longue date du parti, qui n'ont ni la qualification requise, ni une expérience véritable de lutte au service du peuple. La majorité d'entre eux s'avère incompétents et d'une faible conscience politique. Ils s'accrochent cependant à leur poste à cause des privilèges matériels et sociaux associés auxquels ils pensent avoir droit avec les sacrifices qu'ils ont consentis pour la cause du parti. Conscients de leur incompétence, les nouveaux responsables savent qu'ils risquent à la longue d'être relevés. C'est pourquoi ils essaient de tirer le maximum de profit de la situation en investissant l'argent soutiré à l'État dans l'immobilier et les affaires. En 78, regardez l'image aujourd'hui. Donc ce qui est aujourd'hui à craindre, ce que, et c'est mon point de vue, c'est que les nouvelles générations, qu'elles ne puissent pas utiliser leur vie, non pas pour développer notre pays, le Grand Mali, mais pour sauver le Mali. Parce qu'il est comme un otage. Pour le sauver au prix de la dignité et de l'honneur du Mali. Mais il ne faut pas jeter aussi le bébé avec l'eau du bain. Il faut saluer les mesures qui ont été prises. Le professeur rappelait tantôt que les autorités ont décrété l'année 2014, année de lutte contre la corruption. Il faut aussi saluer quelques mesures qui ont été prises, qui ont besoin d'un peu plus de cohérence et d'efficacité. Donc, et l'élan que le nouveau Premier ministre est en train de prendre est un bon élan. Il suffit juste qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait de la pertinence et qu'il y ait de l'efficacité. Je pense qu'on ne pourrait certes pas éradiquer la corruption, mais on pourrait montrer des jalons qui sont importants dans la lutte contre ce fléau.
Déjà, les mesures prises ont le mérite aujourd'hui de susciter le débat chez nous ici à Tamani. Alors, professeur, quel est l'avenir de cette jeune génération qui aura à gérer l'administration publique malienne dans le futur?
En réalité, le fossé dans lequel on se trouve, que mon frère Cissé vient de décrire, est une opportunité. On peut rebondir. Il n'y a pas de problème pour ça. Le problème, c'est l'inaction. S'il y a l'inaction, eh bien, le Mali va dans sa destruction. J'ai dit, et je le répète, les trois régions sahariennes vont partir d'un côté, les trois régions sud-ouest vont partir de l'autre côté. Le centre et les autres, on ne sait pas comment ils vont nager, mais pour le moment, il y a de quoi lier au moins ces trois régions deux fois. Donc, la jeunesse actuellement, nous pensons fondamentalement qu'il a parlé tantôt que les gens quittent pour aller en Espagne pour faire de l'agriculture. Pourtant, nous avons ici, au Mali, une technologie à travers le centre Sénin ou la Fondation Niang Abdoulaye qui a financé, qui donne les mêmes conditions de productivité, de technologie qu'en Espagne. Mais malheureusement, le Mali n'arrive pas à comprendre que l'agriculture familiale africaine ou malienne qui avait un co-entrepreneuriat entre les membres de la famille élargie et qui a amené la stabilité, la paix, la sécurité, la sécurité alimentaire, la sécurité institutionnelle, que l'on peut que nous avons repensé cette agriculture familiale africaine et qui peut permettre d'absorber la jeunesse sans le détacher de tous les petits gadgets dont il a besoin, la télévision, le iPhone et ainsi de suite. Et de faire de lui la nouvelle génération, ou bien la nouvelle race, pas la nouvelle destination, mais la nouvelle race de leaders que nous voulons préparer. Nous avons proposé un programme d'incubateur qui est à l'examen dans le cadre du système de défense stratégique. Si on le suit, on peut mettre un frein à ça. Au lieu d'être un incubateur pour le djihadisme ou pour aller à la migration, en fait, c'est de la manipulation. On laisse mourir les gens dans la mer, on laisse mourir les gens dans le désert pour toujours contrôler la progression de la population, parce qu'on dit que l'Afrique est une région de croissance démographique.
Alors, cette deuxième partie s'achève. Nous allons quelques secondes en pause avant de poursuivre avec la troisième et dernière partie de ce débat.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao, sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal, sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Nous vous savons nombreux à nous suivre aux quatre coins du pays et pourquoi pas dans le monde, notamment grâce à notre site web www.studiotamani en un seul mot, où vous trouverez toutes nos productions et même suivre ce débat en direct. Le grand dialogue que vous suivez parle aujourd'hui de l'utilisation abusive des biens de l'État et cette troisième et dernière partie tente de répondre à cette question. Faut-il une réforme pour la gestion des biens publics? Nos invités, professeur Abdoulaye Niang, économiste, chercheur, et Chekna Bounajim Cissé, économiste également. Alors, Chekna Bounajim Cissé, l'État a-t-il les instruments nécessaires aujourd'hui pour réguler et sévir si, par exemple, il y a constat d'abus?
L'État, par définition, a tous les moyens à sa disposition, y compris les moyens humains et y compris les instruments. Il faut sévir, mais ce qui est important, c'est qu'il faut anticiper. Il faut anticiper parce qu'il faut fixer des règles de conduite qui soient précises, qui soient pérennes. Sortir du spectacle et aller dans la profondeur des choses. Si on n'a pas les chiffres, mais si vous estimez un peu quel est le coût de l'utilisation du matériel roulant, le matériel roulant peut-être dans le parc avec tout l'entretien, ça ne représente pas grand-chose. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une opération qui tape très fort dans l'esprit, mais en réalité, quand vous voyez le volume de la corruption, donc il y a matière ailleurs. Encore qu'il est nécessaire aussi de lutter contre cet abus parce qu'il n'y a pas de petits abus en matière de gestion. La deuxième chose, c'est que quand on punit, il faut punir de façon pédagogique, mais il faut que ceux qui se sentent punis, parce que punir quelqu'un, ça ne veut pas forcément l'incarcérer. On a vu que ça n'a pas beaucoup d'impact positif, sinon aujourd'hui, on n'en serait pas là. Il faut que l'État mette en place un dispositif cohérent. Une volonté politique forte. Et si vous permettez, je vais énumérer un certain nombre de recommandations, sinon de propositions que j'avais déjà faites il y a de cela un an dans un livre qui a été publié par Amazon qui s'intitule « Les défis du Mali nouveau ». La première chose, c'est qu'il faut constitutionnaliser la lutte contre la corruption. On ne peut pas vouloir d'une chose et tourner autour. Il faut que la loi fondamentale de ce pays dise clairement que la corruption est un crime contre l'État, contre le peuple malien. Ça doit être clairement exprimé. Et que la bonne gouvernance doit être le levier que chacun doit actionner. Chaque serviteur de l'État doit actionner pour faire progresser et pour en faire bon usage des biens qui sont mis à sa disposition. Le deuxième élément, il faut un engagement politique ferme. Je peux donner un exemple. Il faut que, par exemple, que le président de la République s'invite une fois devant l'Assemblée nationale pour dire son élément, réaffirmer avec son gouvernement, le caractère, son engagement à lutter de façon pérenne et durable contre la corruption, chaque année devant l'hémicycle, et que cela soit retransmis par les médias. Le troisième élément, c'est qu'il faut améliorer le pouvoir d'achat. Moi, je veux bien sévir, mais je veux me rassurer d'abord, est-ce que moi, en tant qu'État, je suis un kennédiste, je me préoccupe de ce que j'ai fait pour l'État au lieu de ce que l'État. Mais je dis dans le cas précis, je suis pour à ce que l'État puisse faire d'abord le minimum pour ses serviteurs avant d'exiger d'eux une certaine forme de choses, et le professeur l'a dit. L'autre élément, c'est qu'il faut rationaliser la structure de contrôle. Je peux vous dire que si les économies qui sont faites à ce niveau-là sont nettement supérieures à l'économie qui peut être faite dans l'usage abusif du matériel roulant. Et c'est pour ça que j'ai proposé à ceux qu'on dissout totalement toutes les structures de contrôle, les inspections diverses dans les ministères, la CASCA, les inspections, etc., en une seule structure que j'ai dénommée l'Office central de prévention et de lutte contre la fraude. Mutualisation de coûts, efficacité d'intervention. L'autre élément, c'est la création d'un parquet financier. Je crois que vous avez dû voir dans les médias, les différents va-et-vient entre le ministère de la Justice et les tenants du parquet. Ça fait un peu désordre dans un pays parce que la population, nous qui sommes les justiciables, nous avons de la peine à nous reconnaître un peu dans tout cela. Il faut qu'il y ait un seul parquet financier avec des moyens conséquents, avec des objectifs précis.
Et puis, un autre élément qui est aussi important, qui est une nouveauté et qui se fait ailleurs, il faut un monsieur anticorruption. Il faut que dans chaque structure où les biens de l'État sont utilisés, il faut qu'il y ait un monsieur anticorruption qui puisse rappeler à chaque instant les vertus de la bonne gouvernance.
Il y a le contrôleur financier dans pratiquement toutes les structures.
Vous saviez, nous sommes dans ce domaine-là, ça c'est pour cacheter des documents qui passent. Nous ne sommes pas... Ce qui est important, M. Sidibé, je vais en finir là, c'est qu'il y ait un haut fonctionnaire qui soit nommé monsieur anticorruption, qui rappelle à l'ordre chaque fois qu'il constate qu'il y a des risques d'abus dans l'usage des biens de l'État.
Ce qui est compris, M. Bounajim Cissé. Cheikh Nabounajim Cissé, comment rendre les organes de répression plus autonomes, professeur Abdoulaye Niang?
Je suis entièrement d'accord avec lui, Cissé, sur la mutualisation, de rationaliser. En fait, ceux qui sont même dans ces contrôles-là ont transformé leur contrôle en position de rente pour partager un peu ce qu'ils contrôlent, ce qu'ils ont retenu illicitement de la richesse publique. Donc, c'est la moralité encore là. C'est le comportement qui pose problème ici. Mais moi, je voulais ajouter, en plus de cela, c'est les secrétaires généraux dans les ministères et les hauts fonctionnaires de la défense actuellement qui devaient constituer l'ossature de la défense de la nation. Ces secrétaires généraux-là, ils ne doivent plus dépendre de responsables politiques qui viennent, qui, à chaque conseil des ministres, on les change. Ils vont avoir la mémoire institutionnelle. Ils vont être là pour la défense.
À quoi ils servent, à quoi ils servent finalement?
Non, à l'heure actuelle, des récompenses, comme il a d'ailleurs dit depuis le départ, politique est bonne. Donc, place mon nom là-bas, voilà, 50 noms, il faut les placer. Ce sont les gens du RPM ou bien ce sont les gens de l'URD ou je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Il faut arrêter ça. L'État, contrairement à ce qu'on véhicule, l'État n'est pas les responsables politico-économiques, politico-administratifs, ce n'est pas la classe politique. C'est le citoyen d'abord. C'est le citoyen dont une branche va construire la classe politique et une autre branche construire la communauté des affaires. Nous n'avons pas parlé, on a parlé de la corruption, on a parlé de l'administration, mais on n'a jamais parlé de la communauté des affaires qui corrompt ces gens-là. Bon, il a dit peut-être que celui qui a amené l'argent dans la maison et que l'enfant a vu, et donc il dit que mon père vole, donc moi aussi je peux voler. Donc le DEF, là, papa... l'argent que vous avez volé là, il faut en donner là à mon maître là pour qu'il me donne le diplôme. Donc il faut arrêter ça. Mais on a fait une proposition que je vais ajouter à sa proposition. C'est de faire par exemple l'inventaire de toutes les infrastructures qui se trouvent aujourd'hui, surtout à la CI, de les numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et de dire que les gens aillent se présenter devant leur bâtiment avec leurs documents. Mais on fait un inventaire de tout et on les met dans une base de données. Et on dit, bon, vous avez tant de jours pour aller vous présenter les documents pour montrer comment, licitement, vous avez gagné l'argent pour faire ça. Il n'arrive pas à le faire, ça rentre dans le domaine public. Mais si quelqu'un appelle, il dit, moi, j'avoue franchement que je l'ai volé. On donne 15% à sa famille. On ne le met pas en prison. On récupère le reste de 85%. Et nous avons une clé de répartition pour ça, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. Celui qui ne se déclare pas et qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait qu'il est là-bas, il n'a qu'à envoyer un SMS pour dire que l'affaire-là, il n'a pas dit la vérité. Il y a quelqu'un qui est là-bas, lui, il vous a pas dit la vérité. On le prend. Mais ceux qui sont dans le trafic au sens réel du terme criminel, il faut vraiment revisiter la loi de Moussa Traoré là et puis l'appliquer.
Alors, nous allons faire un dernier tour de table en évoquant les solutions durables. Cheikh Nabounajim Cissé, quelle est votre minute de solution pour endiguer véritablement ce fléau?
Toute solution durable passe par la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre en charge. On l'a dit, et d'autres avant nous l'ont dit, et on va continuer à le dire. Le patriotisme et le civisme sont en crise au Mali. Il y a, à l'époque en France, la femme politique socialiste Simone Veil disait que aux Français, qu'il faut donner quelque chose aux Français à aimer la France. Me permettez, M. Sidibé, de dire qu'il faut donner quelque chose aux Maliens à aimer le Mali. Le Mali a besoin d'être aimé. Le Mali a besoin de considération, d'estime des Maliens. Mais c'est une chance pour nous d'être Maliens. Nous devons être fiers d'être maliens. Souvent, quand vous entendez certains parler de leur pays et que vous avez visité d'autres pays, mais vous avez vos bras qui vous tombent dans les mains. Moi qui viens d'un pays comme le Maroc, où le patriotisme est élevé à un niveau où vous ne pouvez même pas estimer c'est une lune rouge. Nous devons en faire la même chose pour notre pays. Et pour cela, j'ai une proposition concrète, simple. Il faut prendre en charge la jeunesse. Il faut que, du primaire jusqu'à l'université, il faut des programmes scolaires où il faut enseigner l'éducation civique et morale. Et dans ce programme-là, il faut prévoir la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Dire à l'enfant que si vous voyez l'argent tomber, comme on le faisait dans le temps, prenez l'argent, allez donner à l'autre, mais ne prenez pas l'argent et le mettre dans la poche pour dire que c'est une aubaine, c'est un don de la nature. Non, le don de la nature, c'est de vous permettre de travailler avec la sueur de votre front et de gagner honnêtement votre travail. Voilà le don de la nature.
Professeur Abdoulaye Niang.
J'avoue franchement qu'aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a une opportunité immédiate là qui s'offre. La démocratie, elle est bonne. Hein. On a déposé une motion de censure contre le gouvernement. C'est l'occasion effectivement que cette motion de censure voit le jour et que le gouvernement de Moussa Mara tombe. Ça donne une occasion à Ibeka de reconduire Moussa Mara en tant qu'auditeur qualifié et d'avoir un gouvernement de 16 à 18 membres pour enlever tous ceux qui sont venus pour le partage de gâteaux. Parce que si le gouvernement est toujours sur le partage de gâteaux, vous ne pouvez pas réinsérer les jeunes, vous ne pouvez pas insérer quoi que ce soit. Il a l'occasion de prendre des gens compétents et de prendre des cabinets, par exemple, pour faciliter le choix des hommes et des femmes qui vont conduire dans son mandat une période de 6 mois, de 12 mois, je dis de transition, mais 6 à 12 mois de programme spécial, et pour le relèvement durable de cet État, basé sur la défense civile, la défense économique et la défense militaire.
Merci beaucoup, merci à vous messieurs. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle qu'on parlait de l'utilisation abusive des biens de l'État. Les trois points de discussion de ce débat, le coût des abus sur les finances publiques, les racines des abus de biens publics et la question, faut-il une réforme pour la gestion des biens publics? Nos invités étaient professeur Abdoulaye Niang, économiste, chercheur, et Chekna Bounajim Sissé. Merci messieurs pour la disponibilité. Au micro, Famoussa Sidibé, à la mise en onde de Salim Djouara, Ousmane Diadié Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou Dmoundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.